Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller. Chouette alors, c'est vendredi et chouette alors bis, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles avec ce matin un témoignage qui, bon, évidemment, est très fort, un témoignage qui est très dur. Nous allons entendre Clémentine, la maman d'un enfant qui a dû être amputé d'un pied. Évidemment, c'est quelque chose de très dur à vivre, mais la force de cette maman, la force qu'elle va réussir à transmettre aussi à son bébé, forcément force le respect et le courage pour nous toutes et nous tous. Donc on tient à vous faire écouter ce témoignage très fort de Clémentine, avec Agathe Le Caron, bien sûr. Et puis derrière, on aura quelques questions à poser à la psychologue Naïma Brento. C'est parti.
Alors si le bébé que nous mettons au monde ressemble jamais à celui qu'on avait imaginé, il arrive parfois qu'on découvre à la naissance que son enfant est porteur de handicap. Clémentine, bonjour. C'est le choc que vous avez connu puisque Jean, qui a 16 mois aujourd'hui, est né sans péroné gauche. Alors merci de venir parler de votre histoire aujourd'hui parce que forcément vous rendez un grand service à tous les parents qui soit l'ont vécu, soit peuvent le vivre et donc... Vous arrivez évidemment avec, je dirais, plein de positivisme et de résilience. Quoi. Alors quand vous découvrez que vous êtes enceinte, vous avez 23 ans, vous êtes en couple avec Louis, votre compagnon, ça fait presque 10 ans que vous êtes ensemble. Je ne me trompe pas si je dis qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas forcément imaginé de faire un bébé à ce moment-là.
Oui, tout à fait. En fait, c'était, on peut dire, une vraie surprise. Moi, je venais juste de finir mes études, donc mon master, et je venais d'être embauchée en CDI. Et en fait, malgré le fait qu'on était depuis longtemps ensemble, on n'avait jamais vraiment discuté d'avoir un bébé. Et donc, ça a été un petit peu le choc. Moi, prise dans l'émotion, j'ai tout de suite voulu en parler aussi à mon travail, dire que j'étais enceinte. Et bon, ils ont arrêté en fait ma période d'essai, puisqu'à ce moment-là, j'étais en période d'essai. Et puis, donc...
On viendrait pour témoigner sur ce sujet.
Oui, voilà, tout à fait. Et bon, après, ils m'ont donné d'autres raisons. Et donc, finalement, je me suis retrouvée enceinte à la maison. Et ça a été aussi le moyen pour moi de vivre aussi une grossesse paisible.
D'investir, du coup, votre grossesse.
Et voilà, tout à fait, oui.
Alors, comment s'est passée l'échographie du deuxième trimestre? L'échographie du deuxième trimestre, c'est celle qu'on appelle morphologique. C'est-à-dire que c'est celle qui permet de déceler d'éventuelles malformations.
Eh bien, elle s'est passée très, très bien. Comme toutes les autres échographies, je me souviens de l'échographe qui me dit « Tout va bien, il a deux bras, deux jambes. » Et en fait, il y avait un os qui manquait dans la jambe et il y avait aussi un orteil donc, qui était manquant.
Et ça, on ne l'a pas vu donc, à l'échographie.
Non.
Vous avez eu un accouchement normal, où la poussée a été un peu longue, mais sinon, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Jean ?
C'était merveilleux. Je pense comme toute rencontre avec son bébé, on l'a mis sur moi, il avait ses grands yeux, il nous regardait avec ses grands yeux écarquillés. C'était juste super d'avoir mon bébé.
Vous l'avez trouvé super beau.
Bah, bien sûr, oui.
Vous l'avez pris dans vos bras,
ouais,
mais vous n'avez pas vu qu'il... avait...
En fait, non, je n'ai pas vu. Et il était un petit peu violet, donc ils l'ont amené dans la salle à côté pour enlever le liquide qu'il avait avalé et pour faire les premiers soins. Donc Louis, mon conjoint, est allé avec eux. Et puis c'est vrai que je trouvais que c'était un petit peu long et on ne me disait pas combien il pèse, etc. Et puis, d'un seul coup, Louis revient donc avec Jean et je vois qu'il avait les yeux rouges et il me montre en fait son petit pied. Il me dit il y a un souci à son pied, il est de travers et il manque un orteil. Et puis là, il s'effondre et moi aussi, quoi, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à un tel choc. Un choc. Oui.
Qu'est-ce qui vous a dit le personnel médical à ce moment-là?
À ce moment-là, le personnel médical, il est presque comme nous parce qu'il ne sait pas en fait quoi nous dire. Donc il y a plusieurs médecins qui passent nous voir et on nous parle de pieds beaux, mais...
Et vous, vous dites quoi à ce moment-là?
À ce moment-là, on est complètement perdu en fait.
Parce que vous remarquez qu'il y a un pied qui est un peu tordu, ouais. C'est ça? Parce que ce n'est pas l'histoire de l'orteil qui vous fait
Oui, fait c'est peur. Vraiment le pied, vraiment, sur le côté. Et y a un orteil manquant, ça, à la limite. Mais ce n'est pas normal, quoi. On se dit vraiment qu'il y a un souci au niveau de la jambe.
Bon. Alors, 3 jours après, vous êtes transférée à Lille, c'est ça, où vous rencontrez un médecin spécialiste de la malformation des pieds. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il vous dit, ce médecin ?
Alors, il entre et puis il regarde tout de suite la jambe de Jean et directement, il dit « je crois qu'il manque un os ». Donc là, c'est la première fois qu'on nous dit ça, donc au bout de 3 jours. Et donc, il s'en va voir la radio et il revient. Et c'est là qu'il nous annonce donc le diagnostic. Donc, Jean n'a pas du tout de péroné dans la jambe gauche. Il lui manque aussi un rayon, c'est-à-dire un orteil. Et la jambe, donc, est plus courte que l'autre. Mmh. Donc, à ce moment-là, il nous dit qu'il va falloir entamer un processus de suivi médical, donc de kiné 4 fois par semaine. Et par contre, il nous dit quand même que dans le pire des cas, il arrive parfois que l'amputation soit une solution dans ces cas-là. Donc nous, à ce moment-là, on se met à fond dans le kiné. On se dit vraiment l'amputation pour nous, à ce moment-là, c'était dans le pire des cas, donc c'était pas pour nous, quoi.
Ça peut être très fragilisant pour le couple, hein, forcément. Déjà, en plus, vous étiez jeune. Ouais. C'était une grossesse que vous n'aviez pas anticipée. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette découverte du handicap, avec Louis, avec votre ouais. conjoint ?
Finalement, en fait, on est restés soudés. Et je crois que c'est aussi ça qui a fait qu'on a réussi à passer ces étapes. Quand l'un flanchait un petit peu, et bien, l'autre venait le secouer et puis lui donner de la motivation. Et puis voilà, on est resté soudés finalement, et encore aujourd'hui. Donc,
Et par ailleurs, Jean, il allait super bien. C'était un petit bébé qui se développait bien.
Oui,
aussi, j'imagine que ça...
Jean, il nous montrait chaque jour que ça allait bien pour lui, quoi. Mmh. Et c'est vraiment... Enfin, c'est un rayon de soleil chaque jour qui passe.
Vous diriez que ça a compliqué un peu votre entrée dans la maternité, dans la parentalité aussi avec votre...
C'est sûr que ça a été difficile. Déjà, les suites de l'accouchement étaient assez compliquées. J'ai été mise sous morphine, j'avais un hématome, etc. Donc, j'arrivais pas à m'asseoir et j'avais pas préparé tout ça. Je m'attendais pas, en fait, à ce que ce soit si douloureux. Et puis, Jean avait aussi un grand reflux. Donc, on n'a pas vraiment dormi pendant un an. Et plus les rendez-vous de kiné qui s'enchaînaient, etc. Donc... C'est vrai que ça a été une entrée en la matière assez rude.
Vous avez essayé de trouver d'autres familles qui vivaient la même chose ?
Oui. Donc on s'est rapproché notamment de l'association ACDA et on a pu discuter avec d'autres parents, notamment donc la maman d'une petite Saori qui s'était fait amputer juste un an avant Jean. Et c'est aussi ça qui nous a permis, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve vraiment seul et on a besoin d'avoir ce retour d'expérience. Et aussi pour ça que j'en parle, je parle de Jean, et parce qu'on a vraiment besoin d'avoir du soutien et de voir que c'est possible d'aller bien après une amputation pour un tout petit bébé. Enfin, c'est...
Alors, vous avez eu rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste aux 3 mois de Jean. Qu'est-ce qu'il a préconisé ?
Alors, à ce moment-là, il nous propose 2 solutions. La première, c'est démarrer un processus d'allongement de la jambe qui se démarre que vers 8-12 ans.
Il avait une jambe plus courte aussi.
Oui, sa jambe était plus courte. Mmh. Et donc, c'est un processus très lourd. Donc, il nous présente ça comme un processus qui engendre dans 100% des cas des infections, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Et l'amputation, qui est aussi quelque chose de lourd, mais qui pour lui était la meilleure solution pour Jean. L'amputation à ses 9 mois. Donc voilà.
J'imagine qu'il faut un petit peu de temps pour intégrer cette idée, même si vous aviez été préparé un petit peu.
Ouais. Donc on avait commencé à s'y préparer en parlant avec d'autres parents. On avait vu que quand même l'amputation, ça serait peut-être une solution. Et en sortant de ce rendez-vous, finalement, je crois qu'on était déjà fixés. Enfin, dans nos têtes, on savait qu'on voulait choisir l'amputation. Pour nous, l'autre solution, on n'arrivait pas à imaginer Jean dans un fauteuil avec toute une armature à devoir allonger sa jambe, etc. Après, c'est un choix que les parents doivent faire parce que certains parents choisissent
l'autre
processus
option.
D'allongement. Mais je veux dire, c'est à nous de choisir...
En fonction de ce que vous ressentez profondément, et puis aussi de l'expérience des parents que vous aviez pu rencontrer. Donc Jean, il est opéré le 14 avril 2021, il avait 9 mois. On imagine l'épreuve que ça a dû être pour vous, toute jeune maman ?
Oui, ça a été dur, je ne peux pas dire le contraire. Ça a été... l'étape la plus difficile de notre vie. De voir son bébé partir avec les brancardiers, tout sourire en fait, et lui faire coucou avant que les portes se referment. Mmh. Et savoir que ils s'en vont lui couper son petit pied qu'on adore et que... Mmh. Donc oui, ça a été une épreuve vraiment difficile. Et aussi, quand il est revenu de l'opération, il était vraiment dans un état très, très apeuré. Il avait mal, je crois. Et puis, les infirmières ont voulu le mettre sur moi. Mais à ce moment-là, j'avais peur de lui faire mal avec son pansement. Et j'avais c'était comme si c'était un nouveau bébé que je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc, à ce moment-là, Louis a pris le relais et ils ont mis Jean sous morphine et, pour le calmer, etc. Mais c'est vrai que c'était
compliqué. Il a vite récupéré ?
Oui, ouais. Très vite, oui. Et plus vite que nous, et vraiment...
Oui, vous avez finalement plus souffert que lui ?
Oui, je crois que, après, intérieurement, il a sûrement dû vivre des choses, mais c'est vrai qu'il s'est remis tellement vite. Il a été que 2 jours sous morphine et puis... Après, il était pendant 2 semaines sous Doliprane et c'est tout, quoi. Et il jouait, il souriait et c'était magnifique, quoi.
Alors, un mois après, on lui a installé une prothèse. C'est une prothèse qui, évidemment, va évoluer en fonction de sa croissance. Oui. Comment est-ce qu'il s'y est habitué ?
Alors, en fait, il a fallu qu'il s'y habitue parce que, en fait, il s'était d'abord habitué au fait de ne plus avoir de pied. Et ensuite, il a fallu qu'il se réhabitue au fait d'avoir une prothèse. Mais bon, ça s'est fait quand même très vite. Et maintenant, il ne peut plus s'en passer, quoi, de sa prothèse.
Et alors, il a 16 mois. Oui. Au niveau de ses acquisitions, est-ce que tout se passe normalement ?
Oui, tout à fait normalement. Il est super dynamique. Donc là, il marche. Je peux même dire presque qu'il court. Il gambade partout. Et,
ah oui, on voit sur les images que... Voilà, il n'est pas en reste.
Non, tout va bien. c'est juste super pour nous de le voir comme ça. Et voilà, on est vraiment confiants dans la décision qu'on a prise.
Et alors, le regard des gens dans tout ça ? Parce que c'est toujours un sujet, forcément.
Oui, nous, ça a été un sujet à partir du moment où il s'est fait amputer. Parce qu'avant, on ne voyait pas vraiment assez bien que le petit pied était de côté. Donc, il n'y avait pas trop ce regard des gens. Et à partir du moment où il s'est fait amputer, c'est vrai qu'il y a eu tout de suite... forcément, je me baladais avec mon bébé sans pied. Et il y avait les regards. J'ai vu ce que c'était le regard sur le handicap, en fait. Donc,
Et quand ça concerne son enfant, ouais. J'imagine que ça vous a blessé.
En fait, ça ne me blesse pas parce que je suis tellement fière de ce qu'on a accompli, tellement fière de toutes les épreuves qu'on a passées. Et quand je le vois marcher, en fait, ça peut... Et même s'il y a des regards des gens, moi, vraiment, je le prends très bien. Et je comprends qu'on puisse avoir un regard comme ça sur la différence. Donc après, j'espère que lui en souffrira pas de ce regard, que ça sera pas trop pesant dans sa vie future.
Aujourd'hui, tout le monde va bien.
Oui, aujourd'hui, tout le monde va bien et on est très heureux.
Bonjour Naïma Brento. Bonjour, merci Agathe. D'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne au CEREFAM, j'ai bien dit.
C'est ça.
C'est Centre de référence malformation des membres. C'est aux hôpitaux de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, évidemment, puisque ce sont des sujets qui soulèvent des interrogations. Jean, c'est le premier enfant du couple, hein, on l'a vu. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les parents, que ça ne gêne pas le lien, la création du lien et la relation avec l'enfant qui se focalise, qui vont... se focaliser les parents surtout sur la lutte contre le handicap. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut rencontrer pleinement son bébé dans ce genre de situation ?
Oui, alors effectivement, déjà le devenir parent, c'est un chamboulement très très important pour n'importe quel...
C'est de toute façon une tempête, on est d'accord.
Femme, exactement, une avalanche d'émotions qu'il faut gérer. C'est un changement dans sa vie de femme, d'homme, de couple. Et quand se rajoute à ce travail bouleversant, effectivement, une situation complètement inattendue, comme la malformation de membres pour la situation qui concerne Clémentine, c'est clair que c'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein, c'est-à-dire des choses à laquelle on ne s'y attend pas du tout. Donc c'est un réel choc émotionnel, il faut vraiment le dire, et le considérer. Ce qui est très important, je pense, c'est vraiment le moment de l'annonce, c'est-à-dire l'attitude de la personne qui annonce ce qui se passe, la malformation ou la maladie ou le handicap, la manière dont c'est fait, le temps pris avec le couple.
Comment... Oui, donc l'attitude du personnel médical est
primordiale. Les premiers mots prononcés sur le bébé sont vraiment gravés dans la mémoire des parents à jamais. Hein. Voilà, quand on suit des enfants jusqu'à la fin de la pédiatrie, bah, les parents nous disent encore le premier mot que l'échographiste a prononcé sur le bébé. Donc c'est vrai que pour le personnel soignant, il y a vraiment cette attention particulière à avoir sur les mots qu'on va utiliser. Quelque chose d'autre qui me paraît vraiment très important aussi, c'est ne pas laisser les parents être envahis par l'anxiété et essayer de les orienter assez rapidement vers une équipe spécialisée pour arrêter les fantasmes anxiogènes. Voilà, si je reprends un petit peu les dires de Clémentine, il va peut-être pas marcher, il va pas faire du sport, à l'école ça va être peut-être un petit peu compliqué, etc. Alors que si on oriente vers une équipe spécialisée, on va avoir des réponses rapidement, et ce qui déjà limite énormément l'anxiété.
Et on va pouvoir rassurer
ses parents. Sécuriser, beaucoup de bienveillance autour du couple.
Et alors à propos de l'entourage, comment l'annoncer à l'entourage, on a reçu cette question pour vous de Laura, regardez.
Nous avons découvert le handicap de notre enfant à la naissance et j'aimerais savoir comment l'annoncer à la famille ou aux frères et sœurs. Merci.
Alors, c'est peut-être frères et sœurs d'abord et la famille ensuite.
Oui. Alors, comment annoncer j'ai envie de dire comme on a envie. Voilà. Ce qui me semble vraiment important, c'est d'être à l'écoute de nos propres besoins, accueillir l'émotion qui arrive. Hein. Voilà, ce n'est pas rien ce qu'on vit. Faire les choses comme on les sent, c'est-à-dire si on a envie de dire tout de suite, on le fait. Si on a envie de prendre un petit peu de temps pour annoncer, ben, on le prend ce temps. On utilise les mots qui nous parlent le plus. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment être égoïste dans ces moments-là et penser à
c'est
soi.
Bien. D'être égoïste. Hein.
Pensez à soi, pensez à soi, parce que c'est vraiment quelque chose de très important qui, voilà, déjà, voilà, essayer de trouver de l'apaisement par rapport à ce qu'on vit, et puis après, bah, aborder l'entourage. Mais voilà, pour la fratrie, pour rebondir un petit peu sur la fratrie, c'est important d'utiliser des mots très simples, ne pas rentrer dans des détails trop compliqués. Si on parle de la malformation de membres, par exemple, les bébés, les enfants vont bien, sur le plan vital, ils vont très bien, ils sont en pleine forme. Donc,
voilà, accentuer là-dessus.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Alors, on a reçu une autre question de Bérénice qui dit « On a découvert le pied bot de mon fils à la naissance et l'annonce a été brutale. » On vient d'en parler justement de cette annonce et du personnel médical. En fait, elle demande comment il est formé à l'annonce d'un handicap, ce personnel médical.
Alors, c'est un grand sujet.
C'est la grande question.
La grande question, effectivement, parce que pour répondre d'une façon un peu au tac mal. Voilà, la formation est vraiment insuffisante. Il y a des efforts très importants à faire au niveau des écoles de sages-femmes, de gynécologues, échographistes,
etc. Même si ça évolue là, ces dernières années.
Ça évolue beaucoup. Il y a une réelle volonté, vraiment. Je sais que voilà, moi je suis sollicitée pour intervenir dans deux écoles de sages-femmes à Paris. Juste pour parler de le moment de l'annonce, comment on annonce, à quoi on peut faire attention, etc. Mais c'est tellement important, ce moment de l'annonce, et il peut vraiment conditionner la suite, que la Haute Autorité de Santé, en 2008, a publié un rapport très important intitulé « Annoncer une mauvaise nouvelle ». Et donc, dans ce rapport, on a plein d'exemples sur, on est, par exemple, sur les conditions matérielles, on est assis, porte fermée. On prend le temps.
Et on y va avec cette première question envoyée par Maxence. Maxence qui dit « Je suis le papa très protecteur avec mon fils de 5 ans né avec un handicap. J'ai tendance à devancer ses besoins et à tout faire pour lui. » Et du coup, il vous demande comment lâcher prise.
Alors, si il demande comment lâcher prise, j'ai envie de dire le travail est à moitié fait déjà.
C'est ça, il a déjà commencé.
C'est dans le bon sens.
Quand on se pose la question, c'est qu'on a conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue. C'est déjà, il y a déjà un point de vigilance qu'on a, donc c'est déjà très très bien. Peut-être rappeler simplement que c'est vrai qu'en tant que parent, on a envie de protéger notre enfant. Hein, on n'a pas envie que notre enfant vit des moments difficiles, des regards un petit peu difficiles à supporter, etc. Donc on va peut-être court-circuiter, devancer toutes les difficultés, répondre à la place de l'enfant quand on lui demande ce qu'il a et pourquoi. Mais il faut se rappeler qu'il faut laisser l'enfant trouver ses propres stratégies de réponse, sa propre façon de réagir et d'agir face au regard. Et c'est comme ça qu'on va l'amener vers l'autonomie. Et c'est comme ça qu'on
ce
va
qui
le faire,
est valable pour tous les enfants, d'ailleurs, l'aider à s'armer.
Complètement. Qui est d'ailleurs suite. Malformation, handicap ou pas, c'est un peu l'attitude de parents, effectivement.
Mais il y a inégalité, je trouve. Il y a des parents qui sont cool, en règle générale, qui réussissent à lâcher prise, et d'autres... D'ailleurs, je pense qu'Agathe et moi, on a ce point commun de ne pas être comme ça.
Qui ont moi du mal aussi, si vous voulez savoir.
Il ne faut pas oublier Yasmine.
Non, je ne l'oublie
non,
pas.
Mais comme ils m'oublient, vous voyez, moi, je me fais entendre.
Non, mais, c'est, mais nous, on a des angoisses vraiment communes non, avec
nous,
Benjamin.
Nous, c'est la Ligue des Champions, si vous voulez.
Voilà, nous, on est... Yasmine, à côté, elle est...
Yasmine, vous êtes un milieu de tableau de Ligue 1. Et
je vous remercie
nous,
dans ça.
Voilà, nous, on voit un enfant, on l'imagine tout de suite dans une chambre stérile. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas... Oui, oui, on est très, très loin.
On peut s'allonger sans problème.
On aimerait bien, Naïma, que vous... Si on pouvait faire une séance commune, comme ça, ça nous coûte 50% moins cher.
Très bien.
Bref, allez-y, Yasmine.
Oui, Pauline vous dit, lorsque leur enfant est porteur de handicap, un des parents doit mettre sa carrière entre parenthèses pour gérer le suivi. Comment surmonter ça sans en vouloir à l'enfant? C'est vrai que c'est pas évident.
Sans en vouloir à l'enfant, en fait... L'agressivité parfois qu'on peut avoir vis-à-vis de notre enfant va être à la hauteur, j'ai envie de dire, des sacrifices qu'on fait en tant que parent, donc en tant que maman et papa. Si on se met à l'arrivée de notre enfant qui est maladie, handicap ou pas, arrêter le sport, arrêter de voir les copains, arrêter de faire ce qui nous fait plaisir... Effectivement, on a beaucoup de chances d'en vouloir à notre enfant après. Donc, le mot d'ordre, c'est
mais
vraiment...
Mais là, c'est le travail. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle arrêtait le sport ou de voir des amis. C'est carrément mettre sa carrière entre parenthèses. C'est vrai que ben, parfois, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui le fasse.
Effectivement, mais le travail fait partie de l'épanouissement psychologique et personnel aussi. C'est vrai qu'il faut vraiment voir les aides possibles pour pouvoir assurer les rendez-vous pour l'enfant, etc. On n'est pas toujours obligé de mettre fin à sa carrière pour accompagner l'enfant. Il n'y a pas besoin forcément à chaque fois.
Donc il y a des aides qui sont là pour
ça ? Il y a des aides faites pour ça. Donc il y a les classiques journées enfant malade. Parfois, il y en a jusqu'à 12 pour certaines personnes. Il y a aussi ce qu'on appelle les congés de présence parentale. Donc ça, avec le médecin qui suit l'enfant, il faut discuter de ça avec les équipes qui accompagnent l'enfant. C'est possible d'avoir des jours quand la situation de l'enfant nécessite des soins réguliers ou des rendez-vous très réguliers. C'est possible. Il faut se rapprocher des assistants sociaux dans les lieux où on est suivi.
Puis voir proposer avec les entreprises, discuter pour avoir un mi-temps ou un 80%.
Oui,
il y a quand même beaucoup d'entreprises qui facilitent quand il y a des situations compliquées. Arnaud, vous devez en voir beaucoup, des familles comme ça qui réfléchissent du coup en termes de couple, comment faire pour s'organiser.
Oui, c'est vrai que c'est là qu'on voit que la notion de famille prime. Oui. Alors il y a les grands-parents aussi qui vont jouer un rôle s'ils le peuvent. Et c'est vrai que ça va. Souvent ça se fait un peu naturellement finalement. Mmh. Et il y a des aménagements dans le travail. C'est pas forcément toujours la maman qui va devoir faire un peu une croix sur sa carrière. Et je constate beaucoup qu'il y a de plus en plus de pères maintenant qui s'impliquent énormément et c'est tant mieux. Tant mieux.
Tara, par quelle phase passent généralement les parents lorsqu'ils découvrent le handicap de leur bébé à la naissance ?
Alors, on retrouve sensiblement les mêmes étapes du deuil en général. Hein. Donc, le deuil, c'est quoi ? Donc, c'est la perte de quelque chose qui est importante pour nous. Et donc là, en l'occurrence, c'est le deuil de l'enfant imaginaire, l'enfant un petit peu parfait qu'on a imaginé tout au long de la grossesse. Donc, arriver à se prendre de la distance par rapport à l'enfant imaginaire pour accueillir l'enfant réel, il y a un gap entre les deux, donc il faut gérer ce gap. Les étapes classiquement, donc on est, quand on vient de l'apprendre, c'est la sidération. Hein, donc on est, le cerveau se met en mode protection pour nous protéger de cet élément extérieur qui vient faire effraction, hein, qui nous bouscule énormément. Il y a le déni, donc la première réaction, non, ce n'est pas possible, on va refaire une échographie, des examens, et ça va aller. On va remesurer les jambes, et puis ça va aller, ou alors ça va grandir après, etc.
Et après, donc, une fois qu'on l'a accepté, là, on passe plus à la.
Donc, ça, c'est le déni. Ouais. Puis, il y a effectivement la phase de colère. Cette colère peut être retournée contre soi. J'ai pris un verre d'alcool, j'ai fumé, j'ai pris un médicament, je ne savais pas que j'étais enceinte, j'ai vécu un choc émotionnel important, etc. L'agressivité ou la colère peut être aussi vis-à-vis de l'échographiste qui a annoncé dans son attitude pour voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, ou l'échographiste qui n'a pas vu au moment des échographies la malformation. Donc ça, c'est la phase de colère, ou contre le destin, ou contre Dieu, ou voilà, ça dépend après de qui on est, hein, et de notre culture et nos croyances. Après la phase de colère, donc il y a la phase de... On peut passer par une phase de rejet, hein, donc il faut le dire, hein, donc le rejet de parfois de l'enfant, c'est-à-dire une difficulté à entrer en lien avec son bébé. Et puis après, donc dans le cheminement un petit peu, il y a la phase de dépression, donc c'est vraiment l'abattement, la tristesse. Là, on négocie un peu avec la réalité, avec le handicap et la maladie, c'est-à-dire on prend en compte la maladie. Et puis ça se termine, si tout ça se passe à peu près bien, ça se termine par ce qu'on appelle l'acceptation. Même si je n'aime pas trop ce mot acceptation, on n'accepte pas la maladie, le handicap. Moi, avec les familles, je préfère dire on fait avec. Mmh. On fait avec, on apprend à faire avec. On n'accepte pas.
Mmh. Alors Brigitte vous dit, on a découvert à la naissance que mon petit-fils est aveugle. Comment accompagner au mieux ses parents suite à ce choc ?
Donc c'est une grand-mère,
c'est une grand-mère qui veut accompagner du coup ses enfants.
Je pense que c'est important pour les parents. Déjà, il faut soutenir les parents pour qu'ils soient dans un état d'esprit positif et soutenant pour leur enfant. En fait, en pédiatrie, on soutient et on accompagne les parents pour qu'eux puissent être dans le bon état d'esprit pour aider leur enfant et le soutenir dans sa croissance. De la bienveillance. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute non jugeante pour que justement le parent puisse exprimer ses ressentis, même les plus violents et les plus difficiles vis-à-vis de l'enfant. Donc il faut trouver des personnes voilà, qui puissent tout entendre.
Les grands-parents, donc, elle le dit là, c'est vrai qu'elle a un rôle à jouer vis-à-vis de sa fille ou de son fils, sa belle-fille, son gendre. Est-ce qu'on lui dit ça va aller ? Est-ce qu'on dit c'est pas grave ? Est-ce qu'il y a des mots comme ça à éviter ou à privilégier ?
Alors, ce n'est pas grave, généralement, ce n'est pas très bien pris. Hein. C'est, voilà, minimiser, c'est jamais... Voilà,
oui,
c'est difficile, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'il faut vraiment adopter une attitude plutôt d'écoute et d'accueil de ce qui vient, plutôt que de poser son propre jugement sur la situation.
Voilà. On n'ingère pas, on accompagne, en fait.
On accompagne, on écoute, on est là. Voilà, si le couple, la maman, le papa ont besoin d'aller faire un tour, de faire des choses qui leur font du bien, et ben on
c'est
est là.
C'est plutôt ça.
Voilà.
Oui, peut-être dans le concret aussi. Ouais. Voilà, tu as eu un choc, vous n'êtes pas bien, laissez-moi le bébé, je vais m'en occuper, allez vous changer les idées. Enfin, voilà, dans la douceur.
La douceur et l'accompagnement. Mmh.
Sylvia nous dit avoir découvert le handicap de sa fille in utero et elle a du mal à créer le lien avec elle. Que lui conseillez-vous de faire ? Je ne sais pas si elle a accouché depuis. Enfin si, j'imagine.
Alors, c'est vrai que quand l'annonce arrive en anténatale, ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, l'attitude de l'annonceur, de comment ça s'est fait, c'est quelque chose vraiment de très, très important. Les premiers mots qu'on a utilisés sur le bébé à naître est vraiment important à choisir, prendre le temps de choisir ces mots. Si vraiment on se sent en grande difficulté, qu'on a du mal à reconnecter avec la grossesse avant la naissance ou à l'arrivée du bébé, il faut se faire aider. Mmh. Les choses peuvent se parler, il y a des professionnels qui sont formés, donc dès l'annonce auprès des équipes du diagnostic prénatal, il y a des psychologues, des auxiliaires de périculture. À la maternité, il faut demander de l'aide aussi. Le mot d'ordre, demander de l'aide.
Les phases de déni doivent être encore plus importantes, non, j'imagine, parce que le handicap ne se voit pas tout de suite.
Oui, il y a beaucoup de fantasmes.
Ils sont trompés, quoi.
Oui, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'attentes magiques. Un petit peu comme les enfants de 5 ans. Hein. Si je ferme les yeux, ça n'existe pas. Ouais. Effectivement, moi, j'ai entendu beaucoup de mamans en anténatale. C'est-à-dire, le médecin, il explique la malformation, etc.
Et
dans
puis on
les détails.
Non, il délire.
Et à la fin, voilà, une maman qui dit en sortant « Oui, mais si ça se trouve à la naissance, la main sera là. » Où les deux jambes seront de la même égalité. Enfin, vous voyez, donc effectivement, on peut avoir comme ça des attentes un peu magiques, mais il faut accueillir. Il faut accueillir, il ne faut pas... Voilà, c'est que le cerveau a besoin de passer par cette phase avant de faire avec la réalité.
Merci infiniment à Naïma Brento et à Clémentine pour leur témoignage et donc pour l'analyse
juste après. Merci à toutes, merci à tous. C'est bientôt le week-end, si vous écoutez ce podcast le vendredi, après vous l'écoutez peut-être un autre jour, et dans ce cas c'est pas du tout le week-end, et dans ce cas ça n'a aucun sens. Bref, toujours est-il que, comme chaque jour, ou presque, je vous le dis, n'hésitez pas à venir nous dire si vous avez des idées, des thèmes de sujets que vous souhaitez voir abordés dans notre émission. Nous, ça nous nourrit beaucoup, vos idées nous nourrissent beaucoup. Voilà, ciao tout le monde, merci à toutes les équipes au sein de P2L, au sein de France Télévisions, qui permettent à ce podcast de voir le jour quotidiennement. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde. We'll be right back.